jamais entendu, animé par Olivier Mathiot et Thomas Benzazon.
Ils sont 40, 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là? À quels enjeux font-ils face? Quels sont les ressorts qui les ont forgés? Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche, et avec mon compère Olivier Mathiot, cofondateur de Price Minister, DG du fonds 2050, président de The Camp et vice-président de France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madinès, France Digital, La French Tech et Neuflize OBC. Vous en voulez plus? Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Vous voulez devenir un super entrepreneur, vous voulez devenir un super animateur, vous voulez devenir peut-être un super co-host. Eh bien, c'est possible et on va le découvrir aujourd'hui. Je soupçonne mon compère Olivier Mathiot d'avoir pris à peu près toutes les options chez Superprof, notamment celui de Supercos. Ravi de te retrouver, Olivier.
Salut Thomas.
Et ravi de retrouver notre invité, Wilfried Granier.
Bonjour les amis, merci de me recevoir.
Bonjour Wilfried.
Tu voulais faire un commentaire avant d'ouvrir?
Écoute, un commentaire, il faudrait peut-être maintenant appeler ça effectivement le 120
nuances de Next.
Nuances de Next, parce que le T'es 40, FT 120. Ça y est, moi je suis FT 120 exactement. Quoi, donc,
Ah mais alors attends, pardon, mes fiches sont mauvaises, tu peux
repartir.
Écoute.
C'est parce que tu as juste anticipé cette année, c'est tout.
Exactement,
bien sûr, et voilà, ça va pas tarder.
J'en profite quand même pour rappeler aux auditeurs qu'on va élargir, on va faire Next 40, passé, présent et futur, donc tu vois, on a beaucoup d'ambition pour toi et pour tous nos invités à venir.
Merci.
Olivier.
Alors, je me propose de te présenter rapidement, comme ça t'évitera de te faire le pitch commercial et on pourra rentrer dans le vif du sujet. Alors, Superprof.
Il fait la promo à la fin.
Superprof, c'est. Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est le Airbnb des profs ou le Uber des profs, ou est-ce qu'il y a des choses et des formulations que tu aimes ou pas, tu nous le diras.
Oui.
En tout cas, je crois que tu l'as créé en 2013.
Oui.
Et tu nous actualiseras les chiffres. Moi, j'ai pu voir un peu dans les retombées presse 20 millions de professeurs répartis dans plus de 40 pays avec plus de 2000 thématiques allant du soutien scolaire à l'apprentissage des langues en passant par la musique, les loisirs, etc. Donc ça, intéressant de voir comment tu t'es diversifié.
Et avec tout ça, t'es même pas Next 40.
Incroyable.
Et puis il y a surtout une caractéristique de Superprof qui est assez étonnante, c'est très souvent revendiqué par toi, Wilfried, c'est le fait d'avoir généré toute cette croissance sans lever de fonds. Donc
ouais,
voilà, à partir du chiffre d'affaires, enfin tu nous raconteras comment, mm-hmm. C'est des choses qui vont vraiment inspirer.
On a l'information.
Il y a peut-être un peu de talent aussi, voilà. Et puis évidemment aussi un bon product market fit, hein, comme on dit dans notre vocabulaire. Alors je crois qu'en 2022, tu affiches un chiffre d'affaires autour de 30 millions d'euros.
Oui.
J'avais noté qu'en 2017, c'était un peu moins de 3 millions d'euros.
Oui.
On voit un peu ce que c'est que l'hypercroissance, hein, c'est fois 10 hein, en quelques années. Passé de 50 salariés en 2018 à environ 200 en 2022. Alors tu nous diras
Absolument,
où tu en es aujourd'hui. Avec de la croissance internationale et aussi donc, c'est de la croissance externe, qui est une autre caractéristique qu'on aimera peut-être aborder, puisque c'est quelque chose qui se pose souvent dans la question des entrepreneurs, c'est comment est-ce que je fais du build-up, hein, comment je consolide mon secteur, ce que tu as réussi à faire au long des différentes années, avec en plus peut-être des techniques et des approches que tu as pu... si tu es prêt à en partager les meilleures recettes.
Avec des petites difficultés aussi, j'imagine. Oh bah, il y en a toujours.
On en a racheté 16. Donc,
voilà, il y a forcément
quelques histoires.
Il y a une courbe d'apprentissage, en tous les cas, au long de ça.
Ouais.
Puis ça serait intéressant aussi de parler aussi de tout ce qui est autre diversification. Tu nous raconteras un peu cette histoire-là. Comment est-ce qu'on crée de la valeur ajoutée et comment est-ce qu'on fait pour ne pas devenir démodé au fur et à mesure des années.
Ouais. Eh bien, Olivier, bravo, parce que tout est quasiment bon. Pour actualiser les chiffres, c'est 25 millions de professeurs à date et on va faire un peu plus de 40 millions de chiffre d'affaires cette année avec 210 collaborateurs.
Bravo.
Merci.
Je pense qu'on va commencer par ce qui titille tout le monde. C'est il est au Next 40, au FT 120 un jour.
Ne
bientôt.
Vend pas la mèche trop tôt. C'est pas encore officiel. Donc
mais c'est à date relativement rare d'en arriver là sans un euro levé.
Ouais.
Et c'est rare qu'on démarre par la question d'un de nos partenaires, mais j'ai peur qu'on préempte trop ta réponse, donc je te propose de l'écouter.
Vous avez un message.
Wilfried, tu as choisi de lancer Superprof en mode bootstrap, c'est-à-dire sans lever de fonds. Au final, quelle était et quelle va être ta stratégie de financement?
Étienne Portet, ouais, un des deux cofondateurs de...
J'ai reconnu la voix, ouais, Madinès.
Ouais.
Étienne qui nous a soutenus dès le début, hein, parce qu'il avait la gentillesse de...
De prendre des cours
Oui, peut-être, mais surtout non, de nous faire un peu relayer,
de parler de vous.
Et faire un peu de promotion pour Superprof.
C'est un vrai média.
Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, bah, ouais, ouais. Non, mais c'est génial ce qu'ils font depuis le début. Enfin, c'est... Bref. Merci Étienne pour la question. En fait, bah, alors, pourquoi déjà avoir choisi de bootstrapper? Déjà, un, c'est une question de liberté. C'est-à-dire que moi, dès le début, je me suis dit, je vais vraiment lancer la boîte de mes rêves. Une boîte dans l'éducation, une boîte à impact, une boîte internationale. Vraiment, la meilleure boîte selon moi. Donc j'ai envie d'être libre, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de kiffer avec mes potes, ben, mes collaborateurs avec qui je constituais une équipe, une bande de camarades avec qui on va révolutionner le monde du cours particulier. C'est ça un peu le truc de base. Et puis également, on veut s'inscrire dans la durée. C'est-à-dire que lever des fonds, c'est à un moment faire entrer quelqu'un qui va vouloir sortir. Donc nous, on n'avait pas envie de faire sortir quelqu'un et peut-être nous précipiter dans une vente ou quelque chose comme ça. On veut s'inscrire dans la durée, on veut garder cette boîte toute notre vie. Moi, mon premier collaborateur, il travaille encore aujourd'hui. Mon premier développeur freelance, c'est mon CTO. Le premier graphiste, c'est mon chef de produit aujourd'hui. C'est une histoire qui s'inscrit dans la durée et donc ça ne marchait pas avec effectivement les fonds. Ça, c'est ma croyance. Et ensuite, après, comment on a fait pour se développer, Étienne, c'est très simple. Dès qu'on gagnait 1 euro, on dépensait 1 euro. Donc, dès le début, en fait, on était rentable et on a dépensé le chiffre d'affaires qu'on gagnait au fur et à mesure qu'on grossissait. Première journée de chiffre d'affaires, on fait 27 euros à Biarritz en août 2013. Je suis fou de joie parce que ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à investir et que surtout on validait aussi le modèle économique. Mais en fait, faut retenir que on a dépensé que ce qu'on gagnait, donc évidemment avec toujours beaucoup d'efficacité parce que quand tu gagnes cet argent, que tu la dépenses, tu sais que c'est dur à gagner, donc tu fais très attention. Très débrouillard aussi, moi, une équipe qui, avec deux bouts de ficelle, arrive à te construire une tour Eiffel. En fait, on est construit comme ça. Tout le monde sait se débrouiller avec très peu de moyens. Et puis après, un autre phénomène qui arrive, c'est la croissance. Donc la croissance guérit beaucoup de problèmes et donc te donne énormément confiance en toi. Donc si tu fais beaucoup de croissance, quand tu gagnes 5 000, tu peux te permettre de dépenser 10 000 parce que tu sais que le mois d'après, tu vas gagner 10 000. Et tu es dans une espèce de culbute avant comme ça. Et nous, on a toujours été dans une culbute avant. Voilà, jusqu'à arriver aussi à un autre phénomène, allez, on va dire 3-4 ans plus tard de maturité de la boîte, c'est les banques qui ont commencé à nous prêter de l'argent. Alors là, faites du slip.
Et pour que les banques te prêtent de l'argent, parce que c'est pas toujours effectivement évident pour les startups, c'est parce que tes bilans, tes comptes d'exploitation étaient positifs.
Ouais, absolument.
Et donc ils regardent le détail, et puis du coup, ça a été... particulièrement pour financer ces acquisitions, dont on parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, et d'autres ressorts de croissance également.
Ouais. Alors en fait, pourquoi je disais au bout de 3-4 ans, parce qu'effectivement, il faut 3-4 ans de bilan positif avec du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation, hein, globalement, des fonds propres et compagnie, enfin tous les ratios que les banques vont regarder pour pouvoir te prêter. Mais après, une fois que tu remplis ça, et c'est ce qu'on faisait, puisque je te disais que nous, dès le début, en fait, on était rentable dans le sens où on dépensait moins que ce qu'on gagnait, les banques ont commencé à nous prêter, principalement pour faire des croissances externes. Ça, c'est vrai. Mais également aussi pour développer notre produit en interne.
Ça a mis combien de temps? Parce que dès le début, c'est quand même une plateforme, donc ça met un peu de temps à construire. Quand tu dis dès le début, on était rentable, c'est au moment où vous êtes lancé?
Oui.
Alors, un peu de temps, j'imagine, avant, évidemment.
En fait, on est rentable dès le premier jour, parce qu'on gagne 27 euros, on dépense moins de 27 euros le premier jour. Voilà. Le premier mois, on fait 6 000 euros en septembre, tu vois, et on a dû dépenser moins. Donc, on est rentable dès le début. Comment on a pu faire pour avoir un peu de chiffre d'affaires dès le début? C'est que moi, quand j'ai lancé Superprof, on avait un petit capital de départ que j'ai mis perso pour développer le site et on a racheté deux petits concurrents. Dès le début. En fait, si tu veux, Superprof, qu'est-ce que c'est? Pour rebondir sur ce que tu disais, Olivier, en présentation, moi, j'aime bien dire que l'idée, c'est le Airbnb du prof particulier. C'est-à-dire que moi, l'idée, elle me vient de deux phénomènes. Un, je m'en mets à la guitare. Et pour trouver un prof de guitare, il y a 10 ans, c'était soit t'allais à la boulangerie d'à côté, tu cherchais un petit étiquette avec un prof de guitare sans qualité, sans rien, soit t'allais sur le bon coin et tu trouvais prof de guitare entre une machine à laver et un camping-car. T'avais un prof de guitare, pas de qualité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai découvert Airbnb en me disant, Mais c'est incroyable, il est de génie, quoi. C'est-à-dire que Airbnb, c'est une place de marché, il y a tellement de confiance entre deux personnes qu'ils arrivent à se prêter un appartement. Donc je me dis, tiens, je vais créer le Airbnb du prof particulier. Ça, c'est le pitch de base. Pas du tout Uber, parce que au contraire de Uber, nous, on prend pas de commission sur les cours, on prend, tu vois, c'est vraiment du matching ce qu'on fait. Donc c'est plus proche d'Airbnb. Et puis en plus, on est un peu lifestyle, type Airbnb. On a envie que les gens apprennent. On est vraiment, on crée aussi une communauté. Qui n'est pas du tout le cas de Uber. Uber, ils n'ont pas vraiment une communauté. Bref, pour faire la différence.
Et je reste sur ma tête, tu dis on ne prend pas de fils sur les...
Non, nous on fait du matching. En fait, nous, notre promesse, c'est de trouver le professeur parfait, Thomas. C'est-à-dire que...
Là, c'est le site de rencontre.
Ah ouais.
Voilà. Alors,
Il y a bien un moment où les gens payent, donc c'est les profs...
Les élèves.
Les
élèves payent quelque chose pour trouver le prof parfait. Les profs ne payent pas chez nous.
Qu'ils le trouvent ou pas.
Ah non, c'est au résultat.
Voilà.
Ah non, Thomas, c'est évidemment, tu ne payes que si. Et c'est le même modèle économique depuis la création du site. Première version du site, donc que je lance en août 2013 depuis la plage de Biarritz, depuis mes vacances. Je lance ce site-là en ayant fait deux petits rachats pour Superprof, donc c'est un algorithme de tri des professeurs et de matching et un moteur de recherche. Et si tu veux, faut le nourrir cet algorithme. En fait, mon algorithme, il n'est pas trop bête, mais plus il a de données, plus il va pouvoir mettre en évidence les bons professeurs, mesurer l'interaction entre les profs et les élèves, récupérer les recommandations, récupérer les avis, enfin plein de choses.
Est-ce je me pose la question, je t'interromps, parce que là on parle d'algorithme, on est déjà presque dans aujourd'hui, demain, mais si on revient un tout petit peu sur la genèse, je sais, est-ce que tu avais déjà ce discours algorithmique, de matching, etc. dès le début? Est-ce que ça a évolué juste parce que la technologie a évolué et votre maturité?
Alors,
est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans la, peut-être pas dans la vision, mais tu vois, dans la façon d'orchestrer la rencontre entre l'élève et le prof?
Non, pas réellement, sauf que avant on avait une trentaine de critères, si tu veux, Olivier, pour faire un bon matching, et aujourd'hui on en a 150. Tu vois, effectivement, l'algorithme
c'est raffiné, quoi.
Énormément étoffé d'infos, de données, on a pris plein de choses en considération.
Justement, on aime bien un peu de détails, je sais pas à quel point tu peux développer, mais tu vois, entre les critères des débuts qu'on imagine évidemment, la localisation, ce genre de choses,
les diplômes
et les nouveaux, les derniers petits arrivés dans la data, c'est quoi?
Alors, principalement en fait la connaissance de l'élève. C'est-à-dire qu'avant, en fait, on connaissait le prof, on essayait de le connaître, mais on n'avait aucune info sur l'élève. Et maintenant, en fait, comme ça fait 10 ans, en fait, il y a beaucoup d'élèves qui ont été profs, qui ont déjà pris des cours avant. Donc, on connaît les parcours et ce que cherchent les élèves. Et donc, en fait, on a énormément enrichi nos élèves. Et donc, aujourd'hui, si tu veux, on va pouvoir faire matcher, par exemple, avant... que tu sois un enfant, un adulte, un senior, tu faisais une recherche de prof, on te présentait les mêmes profs parce qu'on faisait pas le distinguo. Aujourd'hui, on va être en mesure beaucoup plus finement de dire, toi t'es un jeune, très bien, on va te montrer et on va te faire matcher avec des profs qui marchent bien avec les jeunes. Ou on va profiler nos élèves, tu vois. C'est ça qui a la connaissance des élèves principalement.
Et juste pour rester sur le modèle et
encore plus des profs évidemment aussi.
Pour bien comprendre, tu dis on prend pas de transac sur chaque cours.
Ouais. Non.
Donc ça veut dire une fois que j'ai mon prof, ça passe plus par vous.
Absolument.
Ok.
Et c'est très important pour nous.
Que je reste un an, deux ans ou 10
exactement,
ans avec lui.
Exactement. Et que tu le payes 20 € de l'heure ou 100 euros de l'heure.
Ouais.
Ok, donc ça neutralise un peu tous les effets, les possibles conflits d'intérêts.
Exactement, parce que la plupart des boîtes qui prennent des commissions, qu'est-ce qu'elles font? Mécaniquement, elles gagnent plus d'argent si elles font augmenter les prix. Donc elles font augmenter les prix. Nous, on a plutôt une idée de se dire, on va essayer plutôt de faire baisser les prix. Et en fait, la concurrence des professeurs fait que les prix ont mécaniquement tendance à baisser, puisque du coup, il y a des gens qui font un peu de dumping, entre guillemets, pour avoir plus d'élèves. Et donc les prix baissent, et donc du coup, on offre des profs au plus grand nombre.
Alors je me demandais du coup, on comprend assez bien qu'on puisse matcher, comme le disait Thomas, le fin de faire correspondre le meilleur prof possible en fonction d'un ensemble de critères. Ensuite, une fois que tu publies une liste de possibilités, l'élève ou ses parents, s'il est mineur ou autre, dans tous les cas, va être amené à choisir ensuite.
Ouais.
Et là, qu'est-ce que vous lui donnez comme information pour lui pouvoir... choisir et pour considérer un bon match, ça veut dire c'est à partir du moment où il a choisi, il a fait un essai une fois ou à quel moment on considère que c'est la relation est établie?
Je vais te répondre. Alors tu vas voir que c'est assez bien pensé quand même, puisque effectivement d'abord il est très important que l'élève choisisse son prof, toi, tu peux être à l'aise avec un prof qui a fait plutôt des grandes écoles, ou plutôt un étudiant, ou plutôt quelqu'un d'expérimenté, ou plutôt une jeune femme. Enfin, tu te mets vraiment... c'est toi qui choisis avec qui tu es le plus à l'aise. Mais ensuite, c'est pas le tout, c'est pas parce que tu as choisi le prof que ça va marcher. On va te demander, Olivier, de présenter ton projet pédagogique et de te présenter. Bonjour, je suis Olivier, voilà, je suis entrepreneur, j'ai fait ci, voilà pourquoi je veux apprendre, j'ai fait 10 ans de piano avant, j'ai essayé de me remettre. Et le prof accepte ou non ta demande de projet pédagogique. C'est un double matching en fait qui se passe. C'est-à-dire que, en fait, nous on croit très fort qu'il faut que le prof il ait envie de t'enseigner et il faut que toi tu aies envie d'apprendre avec ce prof. Et c'est l'alchimie en fait, entre la rencontre entre le prof et l'élève.
Ça dépasse le simple fait de consommer.
Ouais, c'est pas uniquement l'élève qui choisit et le prof, il n'a pas le choix. Non, il faut que ça matche dans les deux sens. Et en fait, en faisant ça, on a des résultats extraordinaires parce que les profs, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de partager leur passion avec des gens passionnés et intéressés. Les élèves, alors c'est pareil, ils sont bien filtrés et en plus, ils payent. Donc du coup, bah, c'est des élèves très motivés. Donc ça, nos professeurs aussi nous le disent, nous, sur votre plateforme. Ce qui est génial, c'est que les élèves qui arrivent, ils ont payé, ils ont présenté leur projet pédagogique, ils sont vendus. Donc moi, j'accepte déjà un élève qui a vraiment envie, quoi. On n'est pas sur des élèves touristes qui se baladent et compagnie. Donc le matching, et c'est vraiment l'alchimie qui va être créée entre le prof et l'élève, qui va te permettre effectivement d'apprendre. Parce que en fait, on a tous été transformés par un bon prof.
Et sur ce parcours-là, oui, t'as raison, ça c'est un point important.
Ça sort la punchline régulièrement, ça fonctionne bien.
Est-ce que sur ce parcours-là, est-ce que sur
j'y crois pas une seconde.
Non, mais c'est vrai. C'est en général, c'est vrai. Je sais pas si on a tous été transformés par un prof particulier, mais en général, quand même, tous les cas, c'est des rencontres et des inspirations qui peuvent faire la différence dans un parcours de vie. Mais est-ce que du coup, pour aller jusqu'au bout du matching, à quel moment tu considères que c'est bon, parce que tu dis que on ne paye que si ça a bien fonctionné. Est-ce qu'il y a un entretien ou est-ce qu'il y a
On fait une évaluation 360 en fait.
D'accord.
C'est une évaluation qui est faite par les professeurs et par l'élève. Et comme je vous disais au début que nous maintenant on avait beaucoup d'informations sur l'élève, c'est que on a aussi le retour en fait du professeur sur l'élève. Et nous en fait notre job c'est de dire voilà, on veut que l'évaluation 360 se passe bien, c'est qu'il y ait des 5 étoiles dans les deux côtés. Et là on a fait notre job pour nous.
Et vous pouvez être donc amené aussi, dans ce cas-là, à vous séparer d'un professeur. Je crois que vous êtes assez exigeant.
Ah ouais, on est très exigeant. Bah, ça s'appelle super prof. Donc, forcément, tu viens chez nous pour trouver des super profs. On m'a fait souvent la remarque en disant, ah, c'est marrant, vous gardez pas les professeurs qui ont des mauvaises notes. Et un peu comme Booking, où des fois, tu peux tomber sur des hôtels qui ont une étoile et ils sont quand même présents. Alors, j'ai dit, bah, oui, mais c'est vrai que nous, on propose des super profs. Donc, à quoi ça servirait de garder des professeurs qui sont mal notés juste pour te les présenter, quoi? Donc, non, spontanément, ils disparaissent de la plateforme. Et pour rien vous cacher, en fait, nous, on a une équipe de support, de modération. Dès qu'il y a un avis qui est déposé sur un professeur qui se prend une mauvaise note par un élève, tout de suite, le professeur est suspendu. Que ce soit un professeur ambassadeur, un professeur, ça fait 10 ans qu'il bosse avec nous.
Même s'il n'avait que des bonnes notes.
Attendez. Non, on est intelligent.
On s'énerve.
On va laisser répondre.
Non. Il est suspendu pour analyse du dossier. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui prend le dossier en main et donc qui regarde c'est quoi la critique qui a été faite par l'élève, qui est le professeur chez nous. Et évidemment, en fonction de ça, on va essayer de trouver une solution. Peut-être que l'élève a mal compris quelque chose. Peut-être que le professeur n'a pas répondu assez vite. Peut-être que l'élève, il était de mauvaise foi et compagnie. Donc on va arbitrer, en fait. Et évidemment, le professeur qui est chez nous depuis très longtemps, qui a plein de notes, ne va pas être suspendu très longtemps. Mais tout ça pour vous dire que dès qu'il y a un cas, il y a une enquête en interne qui est faite par un humain et ça se dédramatise en 5 minutes. C'est-à-dire que c'est toujours un problème de communication généralement.
On aime revenir sur les débuts beaucoup avec Olivier pour savoir comment se construisent les succès. Le pitch de départ, le storytelling, mais qui est a priori une réalité, c'est ce cours de guitare que tu cherchais.
Ouais.
D'ailleurs, je vais faire un peu de teasing. Si je t'amène une guitare avant la fin de l'émission, on peut voir si t'as passé ton temps à développer la boîte ou si t'as vraiment pris des super cours avec des super profs.
On peut faire les deux, mais bien sûr.
Écoute, deal. On a une guitare au bureau.
Vous me l'accordez, s'il vous plaît.
Ma question.
Ne me faites pas la blague de la guitare en plus que je dois accorder.
Je
vous ferai un petit quelque chose, Thomas.
J'aime bien ces moments improvisés. Non, ma question était la suivante. Tu démarres avec la guitare, j'imagine pas qu'avec la guitare. C'est quoi la première stratégie pour choisir les profs, les disciplines? Alors, est-ce qu'il y a eu des plantages? Maintenant, j'imagine.
Est-ce que c'est plutôt le soutien en dehors de la guitare, etc. C'était plutôt un regard sur l'activité extrascolaire ou plutôt scolaire ou déjà
non,
les deux?
Tout. Dès le début, on se lance avec 250 matières. Donc aujourd'hui, on a presque 2000, hein, mais à l'époque, bon, je me fais une liste, c'est moi qui la tape de 250 matières, donc le scolaire, les langues, le loisir, la musique, on a à peu près, j'ai l'impression de couvrir tout. Entre-temps, on a rajouté l'informatique, la formation professionnelle, plein de choses. Mais à l'époque, voilà, j'ai fait une liste de 250 matières avec, c'était ça l'ADN de Superprof, tout de suite proposer des professeurs dans tout.
Donc,
vraiment,
oui,
ça, c'était...
Une vingtaine de sports, une vingtaine d'instruments,
voilà,
une vingtaine
absolument.
De...
Okay. Voilà. Et avec... j'ai commencé avec une base de 13 000 profs, deux petits sites que j'avais à racheter, coursparticulier.org et prof-élève. Mais faut que vous imaginez que coursparticulier.org, je le rachète à un professeur d'éducation nationale qui avait monté un petit site comme ça, de petites annonces de cours et de profs. Ça faisait 10 ans, il avait peut-être 7-8 000 profs. Et moi, à l'époque, je lui achète sur les grands boulevards, on se retrouve, on était d'accord sur le prix, je lui fais un chèque, et il me remet sa base sur une clé USB.
C'est incroyable.
Je repars avec une clé USB.
C'est une belle anecdote.
Oui.
Et quelques milliers d'euros.
C'était ma question.
Ouais.
Pour moins de 10 000 euros.
Ah, bien sûr. Bien sûr.
Incroyable.
Une clé USB, ça vaut pas grand chose hein, maintenant quand tu
dis comme ça.
C'est ce tu,
mais on sait que le sujet, c'est la data.
Ouais.
Et la deuxième acquisition des débuts.
Oui, prof-élève, bah pareil. Hein, des débats.
Même principe.
Ouais. Un tout petit peu plus cher. Parce qu'un peu plus de trafic, mais moins de profs. Mais, et puis moins de notoriété sur Google, mais pareil, un truc qui se fait en quelques milliers d'euros.
Mais pareil, eux, tu vas les chercher
ouais.
pour la data, donc pour
exactement.
Les profs,
exactement.
L'offre en fait, pour créer et, l'offre.
Mais Superprof, c'est que ça, hein. En fait, c'est qu'un build-up, parce que d'abord, j'achète deux petits sites comme ça, avec un peu de trafic, je lance en août 2013, et donc c'est comme ça que j'arrive à faire 27 euros de chiffre d'affaires, parce que du coup, j'ai un peu de trafic, j'ai peut-être quelques centaines de personnes qui sont venues, qui ont trouvé sympa le site, et qui ont payé pour avoir un prof, donc j'ai eu trois élèves qui ont payé.
Ok. Donc, c'était
ma mère,
9 euros.
Mon père, mon oncle. Pour te dire que c'était du sérieux, quoi. Et non, je plaisante.
Non, c'était quoi, 9 euros le cours et
ouais, 9 euros le matching.
Oui, le matching. Pardon.
Ok. Et ensuite, après, il faut que tu imagines qu'il y avait un grand leader du cours particulier en France. Moi, j'ai eu cette idée.
Tu peux le nommer.
Bien sûr, cherche cours. J'ai fini par m'associer avec lui. En fait, moi, il y a un leader en France qui a 180 000 annonces de professeurs. Tu tapes prof particulier, cours particulier, prof d'anglais, cours de maths. Il est premier partout. J'ai qu'une envie, c'est de le racheter, comme j'ai fait avec mes deux petits build-up. Et donc, je l'appelle, je vais le voir. Et là, je rencontre mon clone. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai fait 4 ans de conseil, KPMG, Ernst & Young. Et j'ai ce projet de le lancer. Là, je rencontre Yann, il a fait arts et métiers. Bon, sauf qu'il est sorti majeur, moi, je suis pas sorti majeur. Mais enfin, bref, école d'ingé, et il bosse chez Capgemini, il est à Cœur Défense en banque. Donc, je rencontre mon clone. Enfin, c'est sur le papier. Et puis je lui dis bah je vais te racheter ton site. Il me dit bah écoute non, moi j'adore mon site, j'ai envie de le développer. Je suis tout seul. Il me dit bah j'aimerais bien m'associer avec toi, mais je dis mais attends, moi je m'associerai jamais avec toi parce que je te connais pas. Moi c'est la boîte de mes rêves, j'ai envie d'être tout seul. J'ai fait ça pour m'amuser, moi c'est pas pour monter une boîte. Et puis bah voilà, on se boit une bière, deux, on dîne ensemble, on s'entend bien. Je comprends que si je fais pas, m'associe pas, en fait, ça ne se fera jamais. Si j'ai un leader énorme avant de réussir
à
être plus fort que lui, et en plus lui était gratuit pour les élèves, payant pour les profs, donc modèle économique inverse, donc de moins bonne qualité, mais du coup moi je devais faire payer, donc compliqué. Et puis je m'entends super bien surtout, et je me dis bah écoute c'est trop con, on va s'associer. Et donc hop.
Ouais,
je m'associe avec lui.
Mais du coup, deux modèles différents.
Ouais.
Et il faut choisir.
Ah non, mais on avait choisi tous les deux. On était d'accord que Superprof, déjà le nom, la marque.
Non, ça... la marque, on est d'accord.
Et le modèle, en fait, ouais. Il a très vite été convaincu parce que par mes chiffres et par les siens, c'était pas du tout la même rentabilité.
Mais du coup, le business que ça générait de son côté était quand même relativement faible.
Oui.
Ou... Ouais.
Parce que lui, il avait comme modèle économique, comme je disais, il faisait payer les professeurs. C'était vraiment comme le Bon Coin, c'est-à-dire qu'il mettait en avant
des. C'est comme des petites annonces, c'est plus voilà. Des petites annonces voilà. Où le
et
vendeur.
T'avais des trucs disponibles tout de suite, moins de 24 heures, des trucs en plus sur l'annonce, des trucs que tu remontais, machin et tout. Il vendait des options de remonter. Voilà, au prof. Et puis moi, je lui ai présenté mon modèle avec le paiement comme ça. Et donc on a fait des calculs et il m'a dit ouais non mais on va garder ton modèle, on va garder ta marque, ton algorithme est génial, enfin voilà. Et puis donc non il était d'accord avec l'idée, donc ça il y a pas de sujet.
Et du coup là tu le rachètes
voilà
pour...
en part sociale.
Ouais non pardon pour le SEO, pour qu'il n'y ait plus personne en face, c'est quoi le...
Pour toutes ces raisons.
Là, pour consolider les bases de données.
Pour le SEO, consolider la base de données et pour plus qu'il n'y ait personne en face. Mais c'est un peu toujours les trois critères qui me font racheter une boîte. Hein. Quand j'arrive sur un marché étranger, généralement, je regarde tous les concurrents et j'essaie de tous les prendre pour le SEO, la base de données. Et puis également, toujours ne pas laisser traîner. Moi, j'aime pas trop laisser traîner des bases de données, même un peu endormies. Parce qu'on sait jamais, un concurrent talentueux qui l'apprendrait, qui, tu vois, c'est faut pas traîner. Les données, c'est très, très important.
Mais c'est rare d'entendre une boîte qui se lance et qui se dit c'est qui le leader, je vais le voir pour le racheter.
Mmh. Ah bah, ouais, c'est vrai,
c'est un bon niveau d'ambition.
Non, mais il faut de l'ambition. Et puis, un peu de culot aussi.
Merci.
Ouais, ouais. Je pensais que t'allais rebondir plus, mais.
Non, mais.
Il faut du culot pour prendre la guitare sur 40
minutes. Aussi, ça, c'est vrai. Non, mais moi, j'y croyais, si tu veux. J'avais envie de faire un truc grand, voilà. C'était un point d'obstacle. Et donc, bah, tous les obstacles, quand t'es entrepreneur, bah, t'essaies de les enlever, quoi. Et puis, faut admettre que j'ai quand même rencontré un mec formidable. Si ça joue. Ouais. Et pour la petite anecdote, ce qui est marrant, c'est que. Donc, on se met très vite d'accord sur le montant, voilà. Tant de pourcents départ, machin et tout. Donc, on négocie un petit peu. Et, par contre, il me dit, bon. Il faut que je te dise quand même, là on va s'associer, donc là c'était acté et tout, mais moi j'avais dit à Nanana que je partais un an autour du monde. Donc à la fin du mois, je pars un an autour du monde, donc on va pas se voir quoi. Je dis, bah, de toute façon je vais être racheté, donc on verra. Donc il m'a quand même, on s'est vu, il m'a donné tous les accès à tous ses serveurs pour le faire transfert de données, on a signé des documents pour le truc, et pendant un an j'ai pas vu mon associé. Et d'ailleurs il me disait, mais...
Et son retour s'est bien passé?
Ouais, mais pareil, il me disait, mais quand je reviendrai je pourrai bosser. Je dis, bah... Bah écoute, peut-être, j'en sais rien. Aujourd'hui, on n'est pas en mesure de te payer un salaire. Lui était ingénieur chez Capgemini, il était senior, donc, et il avait fait une année sabbatique, donc il avait gelé son salaire, revenait 12 mois plus tard, il avait un salaire d'ingénieur, on va dire, un bon salaire. Moi, je savais pas combien j'allais le payer, donc j'ai dit, bah écoute, on verra, reviens dans un an, on verra bien, quoi. Et un an plus tard, il est revenu, on avait des bureaux, j'avais 6 collaborateurs, et évidemment, on a pu lui payer un salaire, pas forcément celui qu'il aurait eu chez Capgemini, mais un salaire
c'est
d'entrepreneur
aventure,
très correct,
ouais.
Et puis surtout bah, directeur général, et puis une croissance incroyable.
Et il avait déjà son bureau de prêt,
oui,
qu'il attendait
sûr,
pendant un an.
Exactement, ouais, j'ai eu le temps de le policher, hein, son bureau. Quoi.
Et du coup, moi, pour revenir sur un sujet un peu différent, mais connexe, qui est associé à cette stratégie de build-up, et en même temps à l'évolution, tu as dit qu'au départ, vous étiez dans une culture assez économe, enfin assez malin, ouais. Smart, etc. Et donc pendant ce moment-là où tu le rachètes, pendant cette année-là, ou je sais pas, peut-être que sur une période plus longue, est-ce que tu as vu la culture évoluer à l'intérieur de ton entreprise? Est-ce que tu arrives à toujours impulser, à avoir les mêmes aspects de débrouillardise, d'envie de changer le monde? Parce que ouais. Tu grossis, en même temps tu achètes ouais. Des boîtes, donc tu mélanges aussi après des ingrédients différents
Alors,
au fur et à mesure que le temps passe.
J'ai un secret pour garder la culture d'entreprise quand je rachète des boîtes. Je ne garde aucun collaborateur de l'entreprise
que
je rachète. Sauf cas exceptionnel. Mais généralement, je ne garde pas des collaborateurs. C'est le deal, c'est je prends tous les assets sans les collaborateurs. C'est un peu violent de dire ça, parce que ça semble vraiment... Mais en fait, la culture d'entreprise, moi j'ai bossé dans une boîte avant où on avait fait pas mal de build-up et on a essayé de mixer différentes cultures d'entreprise. C'est extrêmement dur.
Je sais que c'est dur, oui.
C'est extrêmement dur. Et parce qu'il y a des bastions qui se créent, il y a des voilà, c'est compliqué. Donc, nous, on a vraiment un truc de bisounours. Moi, j'ai fabriqué une équipe de camarades, on s'adore. Donc, je peux pas me permettre de faire rentrer des brebis galeuses comme ça qui pourraient déstabiliser. Cela dit, on a déjà arraché des boîtes et gardé des collaborateurs qui étaient surmotivés, qui avaient envie de bosser avec nous et compagnie. Et bien sûr, ceux-là, on les accepte avec grand plaisir. Mais par défaut, on préfère dire « on ne garde pas ». Pour garder la culture d'entreprise. Et au début, si tu veux, quand on était tout petit, oui, on avait cette culture de la camaraderie, mais qui dure encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plus de 200, mais... Ça transpire parce que tout le monde, en fait, a été les managers qui sont toujours là. C'est une histoire vraiment de longue date.
Hein. Des gens qui ont grandi, tu veux
exactement,
dire, avec toi.
Ils sont toujours là. Mmh. Moi, si tu veux, j'ai eu aucun turnover, on va dire, les 8 premières années. C'est le Covid vraiment qui m'a fait faire avoir les premières personnes qui ont quitté la boîte. Avant, personne ne quittait la boîte. C'était notre boîte à nous tous, quoi.
Et alors, ce jour-là où on te dit je me barre.
Ah bah, c'est très triste.
T'es pas prêt.
Non, je suis pas prêt. Moi, je faisais la blague. Hein. Les 7 premières années, je disais à tout le monde. De toute façon, il est interdit de partir. Donc, il est interdit. Moi, je me suis attaché à vous. Je veux qu'on fasse ça toute notre vie ensemble. C'était la blague. Mais je disais, il est interdit de partir.
Un peu.
Bah ouais, bah tu veux pas te séparer de tes copains, c'est normal, quoi. Et puis le Covid, bah non, ça met des claques parce que nous, on a 38 nationalités au bureau. Donc le Covid, il y a eu des gens qui ont été isolés de leur famille pendant 18 mois, qui ont flippé et donc qui ont eu qu'une envie, c'est de retourner dans le pays. Et donc voilà, j'ai eu des gens qui notamment. Un Australien avec qui je m'entendais super bien, il m'a dit, moi j'ai pas eu ma famille, j'ai flippé, j'ai failli perdre des gens, donc je retourne en Australie, m'installer. C'est important. Tu vois, ça, c'est je ne peux pas lutter.
Il y a des bonnes raisons.
C'est pas une question
de partir.
Projet,
bah,
parce que le projet il est incroyable, c'est super prof, et encore une fois, on s'amuse, on est une boîte à impact, on est dans l'éducation, voilà, on a un partage de la valeur, mais...
Tu t'évoquais le côté camaraderie.
Ouais.
Et ça, je pense que ça fait réfléchir ou rebondir plein d'entrepreneurs qui nous écoutent ou parfois on entend ce besoin aussi de mettre une forte distance pour des raisons qu'ils entendent aussi. Et je suis curieux de développer un peu ta réflexion.
Ouais. Eh bien, moi, pas du tout. Moi, je ne sais pas travailler en mettant de la distance avec mes collaborateurs. Je ne sais pas. D'ailleurs, on a pas vraiment d'organigramme, on n'a pas vraiment d'hiérarchie. Il y a des patrons, il y a des responsabilités, il y a des chefs de projet.
Hiérarchie, parce qu'il y a besoin de trancher des sujets, j'imagine.
Pas tellement, non. En fait, on ne fait pas de stratégie, nous. Il n'y a pas beaucoup de réflexion. Depuis le début, c'est la même stratégie qu'on applique de façon intense, le plus rapidement possible. Mais ce n'est pas très compliqué ce qu'on fait, c'est juste très intense. Donc il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de sujet à trancher.
Il n'y a jamais une grosse nouveauté à...
Non, pas vraiment. Et puis mais surtout, moi, chacun fait bien ce qu'il veut dans la boîte, quoi. C'est-à-dire que si une personne croit très fort, on vient de recruter un nouveau head of brand et on parlait des budgets, des machins et tout. Mais moi, je disais, mais ça, c'était hier, donc tu imagines, c'est très frais. Mais si tu crois très fort à cette idée, moi, je vais te donner évidemment, t'auras un go pour le budget parce que c'est toi qui va, du coup, tu vas le prendre. C'est ta responsabilité. T'as pas envie que ça foire, donc tu seras 10 fois meilleur que par rapport à une décision qui tombe ou un truc qu'on t'impose. Tu vois, il faut laisser les gens vachement en toute liberté. Donc c'est comme ça que je travaille, moi. Et j'ai besoin de me sentir bien avec mes camarades. C'est hyper important d'être bien avec l'équipe. Je suis pas satellisé président avec un directeur général, avec machin. Non, on est... et puis surtout, moi, mon bureau est tout le temps ouvert, on est tout le temps ensemble, je suis au milieu de l'open space. On est très proches, voilà. C'est une grande famille, super prof.
Moi, il y a une question que j'aime bien poser, ça fait longtemps que je ne l'ai pas posée derrière celle-là, mais c'est de savoir en quoi penses-tu que ton rôle a réellement changé entre, tu vois, le jour 1, on a dit 2013, hein, c'est
ouais,
ça c'est...
Ouais.
Et donc, ça fait 10 ans. Est-ce que tu vois en quoi ça a changé? Est-ce que, par exemple, il y a plus de monde? Donc, est-ce que c'est une prise de recul ou est-ce que tu restes très hands-on ou tu as choisi des secteurs, des choses que tu n'aimais pas faire du tout? Ou est-ce que tu as considéré que ton rôle devait évoluer en étant plus tourné vers l'extérieur ou plus, etc.?
Ça fait longtemps que tu ne l'as pas posé, ça.
Alors, écoute, mon rôle... un peu évolué, évidemment, parce que maintenant, je fais de la communication, je sors, tu vois, je me suis rajouté différentes cordes, on va dire, à mon arc. Mais mon rôle n'a pas changé dans le sens où je suis toujours le chef d'orchestre. C'est-à-dire que c'est moi qui vais faire en sorte que ça se passe bien entre toutes les équipes, ok ? Et je suis la personne qui va cadencer aussi les projets. Parce qu'évidemment, voilà, moi, j'ai envie que ça aille plus vite, toujours. Donc, je cadence, j'aide, je mets de l'huile un peu dans tous les rouages. Avant, je faisais tout. Maintenant, j'ai des gens qui m'aident à tout faire, mais je les ai en direct. Je suis très proche, je suis très produit. Moi, je travaille encore énormément. Je mets encore énormément les mains dans le cambouis, dans la fabrication du produit, un truc que j'adore et que je voudrais jamais me passer. Je suis pas trop mauvais dans tous les domaines. Donc, voilà, la finance, la communication. Donc, non, j'ai encore très touché à tout. Donc, ça... Mon rôle n'a pas énormément changé. Et surtout, j'essaie d'être toujours très proche de mes équipes. On est quasiment 100% présentiel. Moi, j'ai quasiment aboli intégralement le télétravail chez Superprof.
T'aimes bien pas faire comme tout le monde ?
Ouais. Alors, je sais pas si... En fait, j'aime bien faire comme moi, j'aime.
Ouais.
Parce que surtout que les profs, ils sont souvent en distanciel.
Pas tellement.
Pas tout le temps, mais il y en a de plus en plus.
Alors, bien sûr, ouais. On a commencé, on faisait 80% de présentiel. On est passé à 100% full remote parce que le Covid.
Pas le choix. Ouais.
Et maintenant, on doit avoir 60, 70% de nos profs en présentiel quand même.
Ah, quand même.
La majorité.
Je reste sur chez vous.
Thomas, juste pour rebondir sur t'aimes bien faire comme tu veux. En fait, c'est comme je veux moi, comme mes équipes elles aiment, comme on est ensemble, comme on fait depuis le début. Et pourquoi on peut se permettre de faire ça? C'est encore un truc qui est lié au fait qu'on n'a pas de fond. J'ai pas de board. Donc, il n'y a personne qui peut m'expliquer que la best practice, c'est ça. Il y a plein de best practices. Tu sais, quand tu montes une boîte, il faut un DAF, un truc, un machin. Tout est déjà écrit, quoi. Et nous, en fait, on fait pas comme ça. On fait comme on aime. Et en fait, quand tu fais les choses avec amour, t'es 10 fois meilleur.
Ça te fait réagir.
Sur l'amour, écoute, en général, c'est vrai. Pas seulement dans la vie professionnelle.
Non, c'est vrai.
Tu parlais d'impact. C'est marrant parce qu'on était en déj tout à l'heure avec les équipes de France Digital.
Ouais.
J'ai dit, il y a un sujet comme ça que vous aimeriez qu'on aborde avec l'ensemble des entrepreneurs qu'on soit. Et ils sont allés là-dessus. Comment ils font de l'impact? Il y a des boîtes qui sont nées à impact, qui vendent de l'impact, qui sont dans l'ADN au départ même impact. Mais on se demande toujours un peu pour des boîtes, mais même qu'une boîte comme la tienne où c'est pas inné, C'est pas obligatoire d'avoir de l'impact. Et donc, quand tu mets de l'impact, c'est quoi? C'est où?
Alors,
jusqu'où?
Moi, justement, je suis pas du coup tout d'accord avec toi, Thomas, parce que je trouve que nous, par définition, on fait de l'impact, mais impact mondial. L'éducation, c'est quand même la meilleure chose au monde pour changer un pays. L'obscurantisme, c'est la pire des choses. Donc, si les gens sont éduqués, si les gens partagent, si les gens communiquent, si les gens ont de l'information, c'est ça qui a le plus d'impact sur Terre. Donc, nous, pour nous, on a de l'impact de par notre métier. Premier point. Et en plus, on a de l'impact pour de vrai. Parce que moi, les gens qui me disent qu'ils ont de l'impact, je veux bien en débattre. Parce qu'on est inscrit dans la durée. Parce qu'on n'est pas, moi, je vais pas faire un cash out dans 3 ans parce qu'il y a un fonds qui va me sortir. On est là pour rester très, très, très longtemps, être le leader mondial du partage de connaissances sur Terre. Donc, je ne crois pas qu'on puisse avoir plus d'impact que nous.
Mais ce qui est vrai, c'est que dans les objectifs de développement durable, qu'on appelle les ODD ou SDG, les Sustainable Development Goals de l'ONU,
merci
l'éducation, la traduction en live, l'éducation ou l'accès à l'éducation pour tous, etc., est un objectif de développement durable. Donc là-dessus, j'abonde. Ceci dit, je me suis rendu compte en regardant moi aussi en tant qu'investisseur les dossiers EdTech, etc., qu'il ne suffit pas forcément de dire qu'on a de l'impact parce que le secteur a de l'impact, ce qui est vrai, enfin je ne remets pas en cause, mais tu pourrais aussi avoir des démarches, ou peut-être que tu en as, c'est la question, plus spécifiquement pour augmenter cet impact, notamment d'inclusion sociale, parce que tout le monde n'est pas égal devant l'éducation. Pour des questions de moyens financiers, et parfois aussi pour des questions culturelles, parce qu'on a des familles, j'ai pu voir ça, qui sont un peu éloignées de l'école, parce que les parents immigrés, etc., parlent pas bien, sont pas en relation avec les professeurs, parce qu'ils parlent pas la même langue. Ils sont autant exigeants, pourtant, vis-à-vis de leurs enfants. Ils ont envie que leurs enfants réussissent, mais ils savent pas très bien comment s'y prendre, ils sont un peu démunis. Est-ce qu'il y a des démarches à faire dans cette direction-là,
qui est
l'ascenseur social, en fait?
Surtout, j'ai encore beaucoup de travail, il y a plein de points d'amélioration et compagnie. Alors, comme je vous expliquais au début, nous, on essaie de fournir un prof au plus grand nombre, donc avoir des tarifs les plus bas possibles à l'heure de cours. Donc ça, c'est le premier point. Mais c'est vrai que effectivement, t'es pas connecté, tu vas avoir du mal à trouver super prof. Effectivement, là, on a plein de points d'amélioration à faire dans les pays et également dans les zones. Effectivement, où il y a pas de prof. Alors heureusement, après le Covid, aujourd'hui, maintenant, quasiment tous les cours peuvent se donner par webcam et en distanciel. Donc ça, aujourd'hui, on a une réponse à fournir en fait aux familles qui sont un petit peu isolées. Mais encore une fois, il faut être connecté. Donc ça, c'est vrai que ça, on peut pas lutter contre la déconnexion. On a encore ce travail-là. Et également sur le prix, c'est des choses qu'on fait également, enfin que nos professeurs proposent, c'est des cours en groupe. C'est-à-dire qu'effectivement, pour mutualiser la dépense, le prof qui va prendre 40 euros de l'heure, eh bien, il va se séparer en deux, en trois, en faisant des micro-classes avec différents... le même niveau à peu près, tu vois, pour réussir effectivement à faire baisser les coûts. Et ça, c'est des choses qu'on encourage avec nos professeurs. Et également la webcam. Les webcams, les professeurs sont prêts à faire des efforts sur le tarif parce qu'il n'y a pas de déplacement, parce qu'ils gagnent du temps. Donc, encore une fois, faire baisser le coût horaire pour avoir accès au plus grand nombre. Mais par contre, le prochain chantier, t'as raison Olivier, et il faut que je me le note bien sérieusement, c'est les gens qui sont pas connectés, qui peuvent pas avoir accès à Superprof, comment on pourrait faire pour les aider?
Oui, après, pour compléter ça, il y a la connexion, c'est un bon point de rebondir là-dessus. Et bravo de reprendre toutes les balles au bon. Ça confirme le caractère positif que tu as. Non, la question qui était aussi, pour moi, la déconnexion, la balle au bon sont dans les professeurs de tennis. C'était aussi, pas seulement la déconnexion au sens numérique, mais ça peut être aussi la déconnexion un peu sociale, quoi. Tu vois, le fait d'être éloigné sur le plan social des meilleures pratiques, parce que parfois, dans ton environnement familial, peut t'aider ou
bien
te pénaliser, hélas, parce que voilà.
Effectivement, le milieu familial, le fait que t'aies des parents éduqués, t'aide à effectivement être plus éduqué. C'est un truc très vertueux, effectivement. Mais c'est pour ça qu'on a encore du boulot, les amis. Je suis d'accord avec vous, quoi. Mais non, sur l'impact, encore une fois, Thomas, pour rebondir à ce que tu me disais, c'est... Moi, j'ai l'impression, et d'ailleurs mes équipes aussi, elles ont le sentiment, c'est-à-dire que tout le monde est drivé par ce côté, effectivement, de se dire on a un impact quand même sur la Terre, puisqu'on met en relation des profs et des élèves, et nos profs nous le rendent bien. C'est quand même, on a un programme ambassadeur où on rencontre des centaines de professeurs tous les mois pour à la fois les former, pour à la fois discuter avec eux, pour à la fois nous proposer de nous aider, ça et tout. Et on a quand même des gens qui nous remercient. Tu peux pas t'imaginer. C'est très, très beau à voir, en fait, l'impact qu'on peut avoir sur la vie des gens qui n'avaient pas de boulot forcément et qui deviennent, du coup, profs particuliers, parce que je me dépêche, mais une de nos missions, c'est de transformer le métier de prof particulier, qui était un petit métier d'à côté, en fait.
Pour les gens qui écoutent en 1,5, là, c'est plus possible. Tu parles trop vite.
qui était un métier d'à côté, le prof particulier. Nous, on essaie d'en faire un vrai métier pour que les gens y puissent en vivre avec des outils, de la formation et qui voilà.
Et alors justement, ça, tu réponds en partie à ma question, mais on peut être très bon dans son domaine, mais pas forcément bon pédagogue. Et donc là, justement, vous accompagnez aussi ces professeurs.
Absolument.
Sur
tout à fait.
La transmission, ouais, et la bonne transmission du
savoir.
Il y
avait un cours de pédagogie, pas plus tard que la semaine dernière, une cinquantaine de professeurs dans nos bureaux, sur voilà, comment bien transmettre, comment garder ton élève actif. C'est très important, en fait. Après, je peux vous
parler... Est-ce qu'il faut avoir la main un peu en l'air, comme ça, et le regarder dans les
voilà,
yeux
exactement.
À l'italienne.
mais il y a plein de techniques, en fait, aussi pour bien transmettre, en fait. Parce que la transmission, c'est bien d'envoyer de l'info, mais il faut que la personne en face, elle puisse la capter. Ce qu'on voit souvent, des fois, dans les classes, c'est qu'il y a des gens qui s'endorment, et ils sont plus captés. Donc, c'est important. Comment garder cet truc? Et donc, voilà, il y a des cours de pédagogie qui sont donnés à nos profs. Et également aussi nos profs, ils sont contents parce que c'est un métier très solitaire, le professeur particulier. Tu vois des élèves, mais t'as pas de collègues. Et donc nous, on essaie de recréer aussi du lien entre nos professeurs qui vont partager sur une problématique. On a fait le mois dernier, pour ou contre, offrir le premier cours. Voilà. Donc c'est un débat avec des profs qui sont pour, parce que voilà, et d'autres qui sont contre, donc ils t'expliquent et on débat, on explique ce que c'est, pourquoi, ce que ça apporte, ce que ça n'apporte pas et compagnie.
Et donc ils vont aussi créer du lien entre collègues.
Absolument, pour être moins isolé. Et il y a des super belles, des fois, des choses qui sont faites entre les profs. Un prof de guitare qui a rencontré une professeure de djembé, de percussion. Ils ont monté une classe ensemble pendant les vacances scolaires. Il y a mi-percussion, mi-guitare. Et ils font comme ça, ça le comble.
Génial.
Pendant les vacances scolaires.
Et je me posais une question qui est du coup sur les élèves eux-mêmes. Donc tu peux effectivement utiliser dans ton algorithme un certain nombre d'informations.
Ouais.
Mais est-ce que les élèves sont amenés eux-mêmes, ou leurs parents quand c'est des mineurs, à faire aussi un peu leur propre analyse de besoins, sachant que c'est peut-être pas toujours évident, tu l'as un peu sous-entendu tout à l'heure, ouais. Mais parce que par exemple dans l'éducation on sait que le rôle du prof, tu l'as dit toi-même, peut être très inspirant, donc il va changer le rapport à l'éducation, peut-être en redonnant confiance, etc.
Ah bah bien sûr.
J'essaie de faire le lien, ce que tu disais, là, apprendre les méthodes pédagogiques qui sont pas seulement dans la transmission du savoir, mais aussi un peu dans l'inspiration, etc. Et
ouais.
Est-ce qu'il n'y a pas des choses à apprendre à travers tes données, peut-être que vous le faites déjà, sur... ça aussi, c'est-à-dire comment conduire l'élève vers l'étape d'après, par l'inspiration, la confiance en lui, qui est souvent quelque chose qu'on critique du point de vue de l'éducation nationale, c'est de donner des notes qui sont plutôt punitives et moins encourageantes que par exemple dans la culture anglo-saxonne.
Alors, bien sûr, alors nos professeurs, effectivement, ils sont sensibles à la pédagogie, à la transmission, mais aussi énormément au coaching, à l'accompagnement, à la motivation. D'ailleurs, c'est quelque chose qui pêche énormément en distanciel. C'est qu'effectivement, on a pu faire des mesures. Est-ce que nous retournent nos professeurs? C'est-à-dire que transmettre comme ça de l'encouragement, de la motivation à un élève à travers la webcam, c'est compliqué. Et donc, en fait, nos professeurs, en fait, au début, confinement 100% webcam, donc c'est comme ça. Mais après, même ceux qui ont voulu rester en webcam, ils disent toujours, tous les 4-5 cours, je veux voir mon élève en présentiel, justement pour redonner cette motivation, parce qu'il n'y a rien de mieux quand un élève est stressé, même s'il a les compétences, et c'est toujours pareil, pour lui redonner du courage, le motiver, lui dire, ah, tiens, c'est bien, vas-y là, vas-y. Et bien se retrouver en présentiel. Donc le présentiel, c'est vrai que ça a cet impact quand même très positif. Et le coach scolaire, c'est pareil, nous on a commencé, on faisait du soutien scolaire. On proposait des professeurs de soutien scolaire. Mais il y a eu un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'au début, c'était le soutien scolaire, c'était pour les élèves en difficulté. Donc t'étais mauvais en classe, on te disait, tiens, on va donner des cours de maths et du soutien scolaire. Et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure, et notamment pendant le confinement, que même les bons élèves, en fait, qui avaient des bonnes notes, en fait, qui voulaient garder leur niveau, qui étaient très ambitieux sur leurs écoles, en fait, ils venaient chercher chez nous un coach scolaire, qui allait être répétiteur, qui allait être sparring partner, alors qu'ils ont des bonnes notes, mais qui va garder cette motivation et puis leur donner en plus goût au, allez, tu visais cette école, peut-être que tu peux viser encore plus haut, parce que tu peux faire mieux, et tu vois, le coaching scolaire, c'est devenu quelque chose de très,
Non, je savais pas ça. Donc ça, c'est pas les professeurs eux-mêmes, c'est une catégorie de professeurs que tu
ouais,
appelles coach
même, c'est soutien scolaire, mais certains se sont mis effectivement dans le coaching scolaire pour les bons élèves, quoi, et pour aller taper ou chercher des meilleures écoles, quoi.
D'accord.
On a lancé récemment une newsletter où on donne la parole aux entrepreneurs, on les fait plancher sur un mot-clé, c'est les nouveaux narrateurs. J'engage évidemment tous nos éditeurs à s'abonner si c'est pas encore le cas. Je te propose, toi, de te lancer sur les premières fois.
Alors, les premières fois, c'est une petite rubrique, on peut te poser des questions sur toutes tes premières fois et de répondre du tac au tac.
Allez, alors, je suis prêt.
Est-ce que tu as pris un premier cours particulier, toi, en tant qu'élève?
Oui.
La guitare?
Non, c'était le rock'n'roll.
La danse?
Ouais.
Pour aller en
premier cours particulier. Non, parce que j'avais une amie qui savait très bien danser le rock'n'roll. Moi, je ne sais pas du tout, j'ai pas fait de rallye. Je viens d'une famille où on ne savait pas danser. Et je me suis dit, c'est pas possible. Donc, le premier cours particulier que j'ai pris, et c'était sur un site de petite annonce qui était avant Superprof, c'est un cours de rock'n'roll dans mon salon. C'est assez ridicule. Hein. Tu te sens... voilà.
On aime bien les premières, on aime bien les dernières. Dernière nuit blanche.
Ah, je dors très bien. Je pense jamais.
Jamais un moment de ta vie d'entrepreneur.
Ah non, surtout pas entrepreneur. À la rigueur, je pourrais avoir un truc perso qui m'a extrêmement contrarié, mais c'est il y a tellement longtemps, donc je m'en rappelle plus. Non, je n'ai jamais fait de nuit blanche.
Une nuit blanche, ça peut être positif, hein, ça peut être pour rester réveillé jusqu'au lever du soleil, par poésie.
J'ai besoin de dormir, moi, j'ai besoin de dormir.
Première fois où tu as. Enfin, quel est ton premier salarié?
Alors, mon premier collaborateur, c'est Camille Le Mardelais. Je t'embrasse, Camille, parce que on cherchait, en fait, moi, je cherchais mon double lumière, c'est-à-dire que la personne qui allait faire exactement comme moi, mais on va démultiplier. Donc, et voilà. Et donc, j'ai passé une petite annonce sur les réseaux, et puis j'ai Camille un jour qui débarque et coup de foudre. C'est-à-dire que vraiment, on s'entend super bien. Moi, à l'époque, j'avais pas une thune à lui proposer, mais par contre, j'avais un super projet et un CDI. Moi, je me suis dit, tiens, je vais lui proposer un CDI parce que, au moins, voilà, je veux lui montrer qu'on s'inscrit dans la durée. Et Camille vient, mon premier collaborateur, on trouve les bureaux ensemble, on refait les premiers recrutements, on vide des poubelles, on travaille le produit, on répond au support, enfin, on fait tout ensemble.
C'est pas tout à fait ce qu'il nous a dit. Non, je rigole, je sais pas. On reçoit une question de sa part en direct, donc je te la fais passer.
Vous avez un message.
Salut, écoute Wilfried, on s'était posé un petit challenge il y a quelques années de ça, même au début de la boîte, quand on avait fait 5000 euros de chiffre d'affaires en une journée. Tu avais dit que tu allais faire quelque chose, j'aimerais bien que tu le racontes sur le podcast. Voilà, passez une bonne journée, ciao.
Quelle sympathique question, parce qu'effectivement, faut imaginer, enfin, faut se remettre au début. On est en août 2013, je lance le Airbnb du prof particulier. Et j'ai envie de m'amuser, de m'éclater et compagnie. Et donc, on fait 27 euros le premier jour, 6000 euros. Et je vois les chiffres qui montent. À un moment, quand mon associé revient de son tour du monde, on doit être à 25 ou 30 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, on est sur un gros 1 000 euros par jour. D'accord? Et je me dis, et j'avais dit à la cantonade, à mes 5, 6, 7 collaborateurs, les gars, le jour où on fait 5 000 euros de journée, j'arrive à poil au bureau. Donc, je disais ça à la cantonade. Et puis, merci Camille pour la question, c'est sympa, mais je vous réponds en...
Ben, on veut la suite.
Ah, ben bien sûr. Et puis, on arrive à 2000 par jour, 3000 par jour, 4000 par jour. Là, on était peut-être déjà...
Là, 10, tu te remets 12. Au sport.
Ouais, déjà. Et surtout, je dis, non, je viendrai en slip au bureau. Là, je quand même... Voilà, on est... Moi, je choquais personne, quoi. Et donc, effectivement, un matin, parce que notre chiffre d'affaires tombe à minuit tous les jours, à minuit 5, on a tous les chiffres de la veille qui tombent. J'ai mon récap quotidien. Évidemment, moi, je regarde toujours... le soir, et je vois, on a fait 5000. Donc demain, c'est le grand jour, il faut que j'aille au bureau en slip, quoi. Et donc le matin, effectivement, j'arrive très tôt, 8h30 au bureau, je suis en slip, hop, je mets un petit truc par-dessus, ma petite chemise, et j'ai passé la matinée, effectivement, en slip au bureau avec mes collaborateurs qui se marraient bien. Et puis voilà. Mais en fait, l'anecdote, donc j'ai tenu ce que j'avais dit,
tiens,
mais c'est parce que, en fait, je n'y croyais même pas. Je me suis dit, le jour... On fait 5000, mais c'est Byzance. C'est pas possible. C'est incroyable. Et aujourd'hui, tu vois, on fait des journées.
On faisait 40 millions par
jour. On fait 150 000 euros par jour. Mais pour te dire à quel point je n'y croyais pas. 5000, je n'y croyais pas. C'était impossible pour moi.
On était sur les premières dernières fois. Le premier renoncement.
Alors. Le premier qui me vient comme ça à l'esprit, c'est. On n'a pas fait un rachat. Voilà. Je voulais racheter une boîte espagnole, le leader en Espagne, et je ne l'ai pas fait.
À cause du prix?
Non, pas à cause du prix, à cause de... En tout cas, mon associé m'avait dit à l'époque que c'était trop cher. Et il m'a réussi à me convaincre, je me suis laissé convaincre du fait que, effectivement, c'était trop cher. Moi, spontanément, j'aurais dit oui, parce que je ne regarde pas trop l'argent. À partir du moment où on me le prête, où j'arrive à l'avoir, j'achète. Surtout, j'y croyais. Je savais qu'on allait faire un build-up de fou en Espagne et on ne l'a pas acheté. Voilà. Et voilà, c'était mon premier renoncement. Et après, j'ai essayé plus tard de le racheter et compagnie. Ça ne s'est pas fait. Au final, il a été vendu à un concurrent. Donc voilà, ça, c'était la première fois que je renonce à faire quelque chose que j'avais envie. Et ça, c'est une belle leçon parce que maintenant, je sais que je m'écouterai beaucoup plus facilement. Et même si on me dit que c'est trop cher, c'est un débat d'idées, le fait que ce soit trop cher. C'est faut faire les choses. Voilà, vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets.
On a tout à l'heure abordé, alors du coup je fais des parenthèses dans les séquences, mais tout à l'heure on a parlé des différentes acquisitions que tu as pu faire. On n'est pas revenu, parce qu'il y en a eu beaucoup, sur celles qui ne fonctionnent pas. Ça peut ne pas marcher, on sait très bien que d'un côté comme de l'autre, les cultures peuvent parfois ne pas prendre. Tu l'as très bien expliqué tout à l'heure, ça a aussi déterminé ta manière d'envisager l'acquisition aujourd'hui. Est-ce que tu peux partager, au-delà de ce choix-là, ce qui fait que la mayonnaise prend ou pas ?
Alors écoute, je pense qu'elle a toujours pris. En fait, je ne me pose pas vraiment cette question parce que je ne fais pas tellement de mesures a posteriori. En fait, j'achète, je migre, je grimpe en trafic, je grimpe en nombre de professeurs et j'ai enlevé un concurrent. Donc moi, tout est bon. Je cherche pas à me dire tiens j'ai gagné plus, j'ai gagné moins, je sais pas, je fais pas de calcul postérieur, donc pour moi tout a fonctionné, mais peut-être que si on faisait les calculs peut-être qu'on se dirait que ça a pas trop marché. Après c'est vrai que des fois on a des surprises, c'est-à-dire qu'on rachète une base de données et en fait on a déjà 70% de la base, bon voilà, donc 70% qui servait à rien en fait, mais nous on l'a
ça,
acheté
ça tu le sais qu'une fois que c'est le jeu,
ouais, tu fais le matching avec les adresses email ou le numéro de téléphone, tu dis ah ben en fait j'avais 70%, mais c'est pas grave puisque si on n'a pas gagné ça, on a gagné le trafic et on a gagné le fait qu'il n'y ait plus de concurrents.
Donc ça marche toujours. Concurrent le reprenne. Voilà. Ouais.
Par contre, si j'avais un truc à refaire, c'est j'en aurais fait beaucoup plus vite.
Encore plus vite.
Plus vite. Parce que c'est toujours pareil. Maintenant, on est identifié. Maintenant, quand on approche un concurrent, bah, on sait qu'on a un peu plus de sous parce qu'on voilà. Avant, j'étais sous le radar. Je pouvais racheter tout ce que je voulais.
Sur les clés USB, ça passait.
Les gens aussi. On arrivait à faire des crédits vendeurs. Maintenant, c'est impossible.
C'est quoi un crédit vendeur ?
C'est-à-dire que tu dis, bah, je te l'achète, mais je te le paye en plusieurs fois. Tu vois ? Parce qu'au début, on ne pouvait pas faire de crédit bancaire.
Tu échelonnes.
Ouais.
Tu vois ? Maintenant, non, les gens, ils veulent tout upfront, c'est-à-dire la signature, ils ont le cash. Et donc, du coup, pour avoir ça, il faut aller faire un crédit bancaire. Mais avant, ce n'était pas possible. Donc, les mecs, je leur disais, bah, je t'achète en 4, 5, 6 fois, un an. Tu vois ? Et du coup, j'intègre. Ton site, je le mets, je développe du chiffre d'affaires. Et avec le chiffre d'affaires que je développe, je arrive à rembourser ma dette. Tu vois, ça c'était au début.
Tu m'as convaincu, je te le vends, je te vends feuilleblanche.com, je te vends
40nuancesdenex.com,
je te vends tout.
T'as des profs aussi.
T'es convaincant.
Et sur la question des acquisitions, tu disais, bah, c'est pour intégrer la culture, tu dis que c'est plus simple de pas garder les employés, mais est-ce que c'est vrai également à l'étranger, tu as fait quelques acquisitions vraiment importantes, enfin en tout cas conséquentes et qui t'ont permis d'accélérer par exemple en Angleterre, et donc du même coup tu n'as pas besoin quand même de garder un peu d'équipes qui ont la connaissance locale et etc.
Non, parce qu'on a déjà tout en interne. Là par exemple effectivement quand on rachète Tutorfair l'année dernière, il y a 9 collaborateurs. Donc tu vois, et on n'a gardé qu'une personne. Déjà il faut savoir
qui fait quoi ?
De modération. Qui est CRM chez nous, donc qui répond au support, qui fait du support et tout.
Juste pour voir un peu le profil.
Ouais, c'est une femme formidable. En plus, elle est chouette. Et puis surtout, elle est venue travailler à Paris chez nous. Donc elle, c'était une aubaine parce qu'elle voulait venir en France. On lui rachète, le site était moribond. Il fallait qu'il relève de l'argent, ils n'y arrivaient pas. Donc ils étaient en train de virer tout le monde. Enfin, c'était triste. Là, elle est dans une équipe super dynamique et tout. Donc, chouette. Alors. Non, parce que nous, quand on rachète déjà, on est déjà présent dans le site, dans le pays.
Ah oui, d'accord.
Et quand on lance un pays, Olivier, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on recrute un natif du pays. Parce qu'on fait un site local. Le premier pays que je lance, c'est l'Espagne. Le premier truc qu'on fait, c'est qu'on recrute une personne native du pays qui va venir travailler avec nous à Paris. Et d'ailleurs, la première recrue, elle s'appelle Eva. On charge nos profs d'espagnol, professeur d'espagnol natif habitant Paris. On a une quinzaine de profils qu'on sélectionne et à qui on envoie en disant bah tiens, ça te dirait de venir bosser pour Superprof. Elle, elle avait des super notes. En fait, elle était traductrice. Elle était venue en France suivre son mec qui avait un boulot à Paris. Elle avait pas de taf, donc du coup, elle donnait des cours d'espagnol. Super bien notée chez nous. On l'a recrutée et on lui dit tiens, tu veux t'occuper de l'Espagne. Et deux semaines plus tard, j'allais avec elle en Espagne pour acheter Don Professor et négocier avec eux pour acheter un site avec un mec qui vendait effectivement avec sur, en plus sur, sur une base Microsoft et tout, enfin bref, donc voilà, mais tout ça pour dire que non, la compétence on l'a déjà en interne et grâce à nos natifs, c'est nos natifs en fait qui font, qui connaissent le pays, qui vont faire les mots clés dans le SEO effectivement du pays, qui vont mettre tout le système pédagogique, tu vois, avec les mots clés du pays, le système scolaire anglais on le connaît pas, tu vois, et qui vont faire aussi la façon géographique de chercher.
Je suis bluffé par ton enthousiasme. je te le dis sur à peu près tous les sujets, c'est dingue.
C'est gentil.
Je vais te proposer de nous enthousiasmer pour le monde qui nous entoure, pour notre pays. C'est à toi, mon cher.
Parce que c'est notre projet.
Merci Thomas et merci Olivier de me donner la parole. Bon, alors c'est une grosse responsabilité, mais en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment, et rappeler à tout le monde que on a un pays extraordinaire et que il faut vraiment kiffer ce pays. J'ai la chance de travailler avec beaucoup de nationalités qui me le rappellent tous les jours. Et on a un terrain de jeu, on a un système financier, un pays incroyable. Donc, il faut s'en rappeler et donc kiffer et aller tous les matins au boulot ou faire ce qu'on fait avec beaucoup d'amour. Ça, c'est très important. Et ensuite, ce que j'aimerais dire aussi, c'est franchement, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que lancez-vous, faites des choses incroyables et vous verrez que ça va marcher. En fait, la seule personne qui vous empêche d'avancer et de faire plein de choses, c'est vous-même. Donc voilà, ça c'est la palissade de faire ça. Et encore une fois, le gouvernement qu'il y a aujourd'hui, il faut pas attendre de des choses. C'est l'adage « aide-toi, le ciel t'aidera », c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que ils nous ont mis depuis des centaines d'années dans un pays extraordinaire avec un système judiciaire qui protège la propriété. Ça, c'est quand même un truc unique dont il faut se rappeler qu'on ne s'en rend même pas compte. Un système scolaire qui est gratuit, la médecine. Enfin, on a un terrain de jeu et un environnement incroyable. Donc maintenant, la balle vous appartient. Enfin, la balle est dans votre camp et donc j'ai envie de dire, voilà, allez-y, foncez, kiffez, et vous allez mais tout défoncer, quoi.
Ça, c'est du programme. Je pense que sur le principe, kiffez.
Mais oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai.
Le kiff.
Mais on l'oublie, Olivier, mais c'est vrai.
C'est vrai.
T'as pas l'air d'avoir oublié. On passe à l'homme, derrière l'entreprise.
Ah ben absolument, car c'est un être humain, c'est un homme.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
Tu sais que dans notre podcast 40 millions de Next, on aime parler de l'entrepreneur et de son entreprise, mais également de la personne. Hein, on te considère comme un peu un rôle modèle. Hein, parfois, je prends l'exemple des champions en sport qui inspirent après éventuellement les jeunes à s'inscrire à la fédération, que ce soit le tennis, le foot, le judo, etc. Et là, on parle de la grande fédération des entrepreneurs. Et donc, beaucoup de gens encore pensent que ça va être difficile, impossible, ou ils trouvent plein de raisons de pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Et est-ce que toi, tu pourrais nous dire à quel moment, puisqu'on a compris que tu avais été d'abord salarié, t'as des beaux diplômes et tu as travaillé pour des grands noms chez des entreprises installées. Mais à quel moment tu t'es dit je veux être entrepreneur, en dehors du fait que t'as une histoire autour du cours de guitare, mais le fait d'être entrepreneur, ça vient d'où?
Alors je ne saurais te dire en fait Olivier, mais ça vient depuis que je suis né quasiment. Les entrepreneurs me faisaient rêver. C'est-à-dire que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, et c'était quelque chose qui me faisait rêver. Quand j'étais jeune, je les voyais comme des conquérants qui allaient partir à l'aventure sur un bateau avec un équipage et qui allaient affronter des choses extraordinaires et surtout qui allaient vivre de leur propre gain. Tu vois, c'était un truc que voilà, je me disais, ils
T'avais
gagnent
des
leur argent
comme ça que tu
non.
regardais.
Alors. Non, quand j'étais plus jeune, j'en avais pas, parce que moi, mon père est enseignant, ma maman est mère au foyer, donc je ne connaissais aucun entrepreneur, ce qui me permettait aussi vachement de les fantasmer. Quand tu connais pas, tu fantasmes, tu t'imagines plein de choses. J'en connaissais pas. Mais j'avais toujours cette envie de me dire ce truc. Et je me rappelle surtout le fait de vivre avec l'argent qu'on gagne. C'était quelque chose que je trouvais mais génial. Parce que je me disais, bah, du coup, comme ça, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que si t'en gagnes plus, tu t'en mets plus dans les poches, et ainsi de suite. Donc, je trouvais que c'est un modèle très vertueux, et d'être autonome. Et puis, avec l'équipage. Et puis, quand tu fais maths sup, maths spé, école d'ingénieur, voilà, t'as investi dans tes études, on te dit, tu vas pouvoir entrer dans les beaux cabinets, tu vas pouvoir avoir un salaire, tu vas pouvoir un machin. Donc, spontanément, en fait, tu mets de côté ton rêve d'entrepreneur.
Tu coches les cases.
Ouais, et puis tu rentres dans les beaux cabinets. Parce que surtout, il y a des, t'as des CDI, des trucs, tu te dis, chouette. Mais moi, je m'en rappelle.
Mais c'était pas un renoncement pour toi, tu disais, ça sera plus tard, si tu commences.
Ouais, non, j'avais mis de côté. Mais moi, je m'en rappelle, Marc Simoncini, tous les gens qui se lançaient en bourse, Multimania, tous ces trucs-là qui me faisaient rêver, Price Minister, je voyais des choses, t'es un tout petit peu plus vieux que moi, 3-4 ans de plus, et je me disais, putain, c'est incroyable, quoi. Et puis moi, j'arrive sur le marché du travail en 2002, après la bulle, tu vois, c'est un peu moins à la mode, donc cabinet. Et puis, j'ai toujours cette envie de monter des boîtes, et puis, un jour, je fais une rencontre, je rencontre un associé, Loïc de Cardrel, le patron d'Adverline. Et là, je rencontre pour le coup un entrepreneur qui me dit, c'est tout con, en fait. Tu veux monter une boîte? Tu vas avoir un comptable. Tu veux un compte bancaire? Tu vas aller là. Enfin, il me dédramatise le truc et je me dis, mais en fait, c'est vrai. Et donc, je monte une première boîte avec lui. On s'associe. Alors lui, il avait Adverline à côté, mais il monte une petite filiale et il me met le pied à l'étrier et il me dit surtout, allez, lance-toi, tu vas voir. Mais moi, je suis chez Ernst & Young. J'ai un salaire. Et puis, je travaille, la nuit, je travaille sur mon projet de boîte, mais.
Mais c'est pas encore Super Prof.
Non, c'est pas Super Prof. Ça, c'était une dizaine d'années avant, quoi. Ça s'appelait KP Media. C'était une petite boîte qui faisait de l'édition de sites web et de la publicité sur Internet. Et je me rappelle, il me disait, il me prend toujours l'image, il me disait, mais moi, j'étais dans l'eau. Wilfried était sur le pont, agrippé, il n'osait pas sauter. Mmh. Et moi, j'ai dit, mais saute, elle est bonne. Et à un moment, j'ai sauté, puisque à un moment, j'ai été voir le mec de KPMG, de Ernst & Young. D'ailleurs, je le remercie parce qu'il a fait un truc incroyable, parce qu'à l'époque, les ruptures conventionnelles n'existaient pas. Mais on a trouvé un deal pour que je fasse la mission jusqu'au bout et qu'il me licencie.
C'est qui?
Philippe Hausser. Il a quitté Ernst & Young, je l'ai revu sur un podcast et je l'ai remercié de vive voix d'ailleurs. Il se rappelait plus ou moins de moi. Parce qu'il en a vu passer quand même des jeunes. Mais il m'a mis pied à l'étrier.
Bien, merci.
Et je suis... et puis après, je lui avais bien vendu le truc en disant, écoute, c'est grâce à toi parce que tu m'as montré tellement... J'ai fait tellement de missions chez les entrepreneurs que ça m'a donné goût, hein, tu comprends. Et par contre, je vais avoir un problème au niveau finance, rapport à la fin du mois. Donc, il faudrait me licencier. Et c'est compliqué
chômage
pour eux parce que à l'époque, ça les mettait en faute. Tu vois. Donc, c'était compliqué. Et donc voilà, on a trouvé un deal. Et je me suis lancé, j'ai rejoint Loïc. Et puis la boîte a cartonné, j'ai lancé un peu, j'ai recruté, puis ainsi de suite. Et puis, et puis après, c'était parti. Puis une fois qu'on a le virus, une fois qu'on a goûté à l'entrepreneuriat.
On a fait quoi de ça?
J'ai vendu. Ouais, j'ai vendu 4-5 ans plus tard. Pareil, j'ai vendu presque sans faire exprès. Mais parce que je voulais racheter les parts de Loïc, en fait. Et donc un jour, je vais le voir 4-5 ans plus tard. Lui. Il avait Adverline, c'était introduit sur Alternex, c'était en train de racheter Société.com, et ils avaient des millions d'euros. Et moi, j'avais ma petite SARL, à l'époque 50 000 francs, c'était déjà en euros, donc ça devait être 8 000 euros de capital. Ma petite SARL, on était 10-12 collaborateurs, j'avais une belle croissance. Et je vais le voir dans le 18e où on était, j'avais un bureau grand comme ici, quasiment avec une petite mezzanine parce que je pouvais mettre deux personnes au-dessus. Mais ouais, on était 8-10 là-dedans, quoi. C'était vraiment très collé serré. Et je vais le voir, je dis, écoute, t'es même plus dans la boîte, moi j'ai envie de te racheter, t'es 40%, quoi. Mais t'imagines que j'imagine que ça vaut quelques dizaines de milliers d'euros, en fait. J'en sais rien.
Tu acheter ses parts au nominal.
Bah parce que lui, il avait, non, mais j'avais même pas d'idée de valo, en fait. Ouais. En fait, je vais discuter comme avec un pote. Tiens, je vais te racheter tes parts. C'est une idée que je lance comme ça sans réfléchir. Et puis il me dit ça m'embête. Sachant que c'est un mec surbrillant. Il est incroyable, ce mec. Il a beaucoup de finesse. Moi, j'ai pu être estomaqué par Loïc. Merci Loïc d'ailleurs. Tiens, faut que je te remercie encore pour avoir mis qualité. Parce que c'est un mec. Je travaillais des jours et des jours sur des trucs. Je faisais des deals, des contrats, des machins. Et lui, en 5 minutes, alors que j'avais bossé des jours, il rajoutait toujours la petite touche qui passait du truc vachement bien à parfait. Tu vois, le petit truc de petit fluide, tu vois. Et j'ajoutais, je me disais, mais comment il fait pour avoir toujours la petite étincelle de bonne idée, quoi. Bref. Et donc, il me dit, non, ça m'embête et tout. Et en fait, une semaine plus tard, c'est lui qui me donne rendez-vous au Bistrot des Dames, rue des Dames, et qui me dit, ah, écoute, j'ai une idée, en fait, c'est pas toi qui vas me racheter, c'est plutôt moi qui vais te racheter, et puis tu vas devenir DG d'Adverline, et puis on va bosser ensemble. Et donc voilà, et donc, il me rachète ma boîte, il me propose des montants, mais que j'avais jamais pu imaginer, et donc je pars comme ça de nouveau, voilà.
Et Est-ce
et après, j'ai remonté d'autres boîtes dans l'immobilier et compagnie. Après, j'ai pas pu arrêter parce que c'est
entrepreneur,
c'est fabuleux.
On était sur tes débuts. Est-ce que petit, toi, tu faisais partie de ces gamins qui avaient des petits business qui c'était quoi?
J'ai fait beaucoup de choses. D'abord, le premier business que j'ai fait, je vendais des croissants. J'habitais dans une résidence. Résidence, c'est Fougères, Reclay-sous-Bois, dans le 78. Et j'allais voir toutes les personnes et je leur disais, voilà, je vous livre des croissants demain. Et donc...
Tu margeais bien.
Bien sûr, fois 3.
Fois 3.
J'ai acheté un franc au champion du coin.
Et tu le revendais 1 euro.
3 francs. 3 francs, c'est des francs, Olivier, à l'époque. Rappelle-toi.
Non, c'était pour rien.
Les 3 francs. Ouais, 2. Ouais. Mais à la fin de la semaine, j'ai gagné 150 francs. Enfin, tu vois, on parle de 30-40 euros. Enfin, c'était pas énorme. Mais 30-40 euros, quand t'as 12-13 ans, c'est incroyable. Et je faisais les paquets avec ma maman qui me donnait les sacs congélateurs. Je mettais des croissants. Enfin, c'était...
C'est quoi l'apprentissage de ce temps-là?
Que j'adore gagner de l'argent. J'adore. J'adore.
Bien de l'assumer. On n'a pas toujours ce discours. On l'a parfois, les entrepreneurs, beaucoup qui disent non, l'argent, c'est pas vraiment important, je suis pas là pour ça. D'autres qui assument, comme tu fais, et puis d'autres qui disent oui, c'est important, mais c'est pas la seule chose. Il y a tous les niveaux de nuances, nuances de monnaie.
Les 40 nuances de...
De monnaie.
Alors, je vais vous dire un peu, parce que j'ai affiné. Moi, j'adore gagner de l'argent, parce que de toute façon, en plus, c'est un truc très facile à mesurer. T'en gagnes plus, tu fais mieux ton travail, augmenter son chiffre d'affaires, c'est quelque chose sur lequel je suis très vigilant. C'est le premier indicateur que je regarde, la croissance du chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière, le même jour. C'est ce que je regarde tous les jours en premier. C'est le premier indicateur. Mais par contre, tu vois, Olivier, moi, je ne veux pas d'argent personnel. C'est pas quelque chose que je veux. Je veux pas plus d'argent. Je veux pas me déconnecter de mes amis. Moi, aujourd'hui, je me verse un bon salaire, Super Prof. J'ai jamais pris un dividende, un euro de dividende depuis la création. Je ne cherche pas à m'enrichir personnellement avec Super Prof. Par contre, je cherche à enrichir énormément Super Prof pour me permettre de rêver plus grand. Là, on a acheté nos bureaux, par exemple. Tu vois, c'est quelque chose.
Ah oui, tu as acheté.
J'ai acheté mes bureaux. Là, à la fin de l'année dernière, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu imaginer. Tu vois, il y a deux ans. Il y a deux ans, jamais j'aurais pu imaginer qu'on me prête autant d'argent. Donc, voilà. Gagner de l'argent pour rêver plus grand.
Oui, parce que
pas personnellement.
J'allais dire, dans ta bio, il y a écrit « Gagner de l'argent ne l'intéresse pas », mais en fait, j'avais enlevé « Mais ne rien construire ». Donc, il faut les deux, quoi.
Ouais,
il faut les deux.
C'est vrai. Ouais.
Magie du montage. Nous avons une guitare dans la main, c'est incroyable.
C'est incroyable.
Elle est accordée en plus.
Non.
Mon cher Wilfried, j'espère que t'es droitier. Hein. J'ai pas pensé te demander.
Ah, puis en plus, c'est une super belle guitare, quoi.
Tu chantes aussi.
Non.
Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien des sommeils de ces nuits. Je l'aime à mourir.
Ah, aidez-moi les copains quand même.
Vous pouvez écrire tout ce qui vous plaira. Elle n'a qu'à reconstruire
de ses bras
pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir.
Et
j'ai pas perdu
faire.
Toutes les guerres.
40 voilà. Nuances de karaoké.
Super prof de guitare, merci.
Voilà.
Eh ben, merci à toi. Franchement, c'est la première.
Ouais, c'est vrai. Et ça illustre le propos qui est que Super Prof, ça permet effectivement d'apprendre.
Et oui.
Alors, je suis très chaud. Olivier, tu joues de la guitare?
Ah non, je suis désolé. Je fais la trompette. Et c'est là que tu me dis, mais j'ai une trompette.
Magie du...
Magie direct.
Là, sous la table.
On a 4 petites minutes avant qu'Olivier nous quitte. Mais on va garder Wilfried encore un petit moment. C'est le moment de la claque.
La claque. La claque, c'est une rubrique importante et je trouve qu'elle est d'autant plus importante pour toi parce que tu as le parler vrai et tu as tellement d'enthousiasme qu'on pourrait croire presque que c'est facile d'être entrepreneur. Et nous, il ne s'agit pas aujourd'hui de dire tout le temps que c'est facile. On est bienveillant et on veut valoriser les aspects positifs et optimistes des parcours entrepreneurs. Surtout dans le French Tech 120, on a des entrepreneurs qui ont réussi. Malgré tout, on sait que sur le parcours de la réussite, il y a également des embûches et c'est souvent, il faut avoir perdu souvent avant de gagner, comme disent certains sportifs. Donc, est-ce que tu es capable de partager en toute honnêteté, enfin, tu vois, l'honnêteté, c'est-à-dire de pas de bullshit, pas de fausses claques, de dire que voilà, il y a des moments où j'ai appris, je me suis planté, mais j'ai aussi rebondi, forcément, puisque tu es là, tu as rebondi.
Alors, déjà, moi, je veux combattre l'idée que l'entrepreneuriat, c'est difficile. Je dis pas que c'est facile,
d'accord.
Mais en tout cas, c'est pas dur. C'est-à-dire que vraiment, moi j'invite tout le monde à se lancer parce que c'est quand même une aventure extraordinaire. Je dis pas que c'est fait pour tout le monde parce qu'il faut aimer l'aventure, faut aimer les rencontres humaines, faut aimer l'incertitude, mais c'est si on aime l'aventure, c'est fabuleux. Donc vraiment, j'essaie de combattre cela. Non, la claque que je me suis prise, c'est peut-être un peu au moment où effectivement j'ai vendu ma première boîte et parce que trop d'argent, parce que j'ai 28 ans, parce qu'on me propose des sommes incroyables, alors que je gagnais un petit salaire à l'époque, donc c'était irrésistible, donc j'ai vendu. Et je suis redevenu, du coup, salarié, entre guillemets. Et en fait, je me dis avec le recul que j'aurais jamais dû vendre cette boîte. J'aurais dû la garder. Et j'aurais été beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que l'argent que j'ai gagné à l'époque, mais c'est un apprentissage, tu vois, c'est chouette parce que ça m'a mis dans une situation effectivement de confort matériel et de sécurité. Et c'est peut-être pour ça aujourd'hui que je n'ai pas envie de regagner plus ou de faire du cash out comme beaucoup d'entrepreneurs font en disant ça me sécurise, je partage. Parce que moi, j'ai déjà créé mon patrimoine, notamment immobilier. Si je l'avais pas fait, Superprof serait beaucoup plus gros aujourd'hui parce que j'aurais utilisé la première société pour lancer la deuxième et ainsi de suite. Donc,
Penses que t'aurais lancé Superprof quand même?
Ouais.
C'était en parallèle quoi qu'il.
Oui. Oui. Oui, parce que déjà à l'époque, j'aimais beaucoup l'éducation, j'avais envie de lancer des trucs, voilà. Et un autre truc aussi, je sais pas si c'est une claque, mais s'associer, c'est quelque chose de fabuleux quand les associés sont bien alignés, mais c'est aussi quelque chose de très compliqué quand il y a un désalignement.
Et on peut commencer à aligner, puis se désaligner.
Ouais, bien sûr, ça arrive. Ça s'appelle la vie. Ouais. Ça s'appelle la vie. Et surtout, n'attendez pas non plus, une idée reçue aussi, c'est d'attendre son associé pour se lancer. Or, on peut très bien se lancer tout seul, on a besoin de personne, et l'associé peut arriver en cours de route, il peut repartir. Mais voilà, ne pas attendre la bonne personne. En fait, il faut rien attendre. Il faut se lancer au plus vite. Et plus vous lancez vite, plus vous apprendrez et plus vous kifferez l'entrepreneuriat. Quoi.
On trouve toujours de fausses bonnes raisons de ne pas se lancer.
Je suis d'accord avec toi, Thomas.
Et beaucoup de gens te donnent des fausses bonnes raisons de ne pas te lancer en disant c'est trop tôt, c'est trop tard, ça va coûter trop cher. Donc...
Mais des fois, on a des bonnes raisons de devoir quitter un beau plateau.
Ouais,
c'est ton cas, Olivier.
Mais je vous laisse finir en beauté.
Merci, Olivier, en tout cas.
Et je ne dis pas au revoir puisque ce n'est pas la fin.
On se revoit tout à l'heure.
Salut.
Sans transition, mon cher Wilfried, si ça te va.
Je suis prêt.
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
C'est le moment officiel de ta carte blanche. Alors là, vraiment, bon, on a bien compris, t'as pas ta langue dans ta poche. T'as l'air d'avoir de l'enthousiasme sur beaucoup de sujets. Très varié. C'est en fait un moment où tu fais ce que tu veux de ce podcast. Tu peux reprendre la guitare, tu peux décider d'offrir
ça, sympa,
du
ça,
temps
c'est...
de cerveau disponible à toute notre audience et on se tait. Tu fais ce que tu veux.
Ok. Alors, premier point, j'aimerais faire un petit coucou à mon fiston. Parce que voilà, c'est l'amour de ma vie, c'est mon petit
Olympe. Récent.
Comment ? Il a 4 ans et demi.
Ouais.
Voilà, donc j'aimerais dire... je t'aime, mon fils.
Il s'appelle Olympe.
Olympe, ouais.
C'est le nom de ma fille.
Ah ouais.
Qui a 4 ans et demi aussi.
Ah bah c'est incroyable.
C'est drôle.
6 décembre 2018.
Nous, elle est Doute.
Doute, ok.
Ouais.
Bon. C'est un prénom, en fait. On avait gardé la surprise avec ma femme du sexe. Et on trouvait pas de prénom pour les petits garçons. Et Olympe, j'adorais ce prénom pour une fille. Et en fait, ma femme a eu l'excellente idée de dire bah, en fait, c'est un prénom mixte. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est vrai, c'est encore presque plus beau pour un mec que pour une petite fille.
Il y a un chanteur aussi qui s'appelle comme ça, je crois.
Ah ouais, ouais. Ah, je connais pas.
Je te ferai écouter après.
Et donc, ma femme a accouché, que ce soit un garçon ou une fille, c'était Olympe. Et c'est un petit mec qui est arrivé. Bref, donc je t'aime, mon fiston. Premier point. Et deuxième point, non, j'aimerais envoyer de l'envie, de l'amour à des gens qui se posent la question de lancer un projet. C'est le résumé de tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat, c'est vraiment fabuleux. N'attendez pas, faites les choses avec amour, vous ne ferez jamais quelque chose de bon. J'ai rencontré des gens qui veulent essayer de faire des choses pour gagner de l'argent, ça ne marche pas. Faites des choses que vous aimez, faites-les bien et ça marchera. Il n'y a rien qui résiste à l'amour. Donc, lancez-vous, kiffez, vous allez rencontrer des gens. N'attendez pas l'associé extraordinaire, n'attendez pas l'associé complémentaire. Moi, j'ai rencontré mon double quand je me suis associé et ça s'est très bien passé. On a vécu 7 ans dans un idylle extraordinaire et même la séparation s'est bien passée. Donc, lancez-vous, les amis. Franchement, vous ne le regrettez pas et n'hésitez pas à me contacter également. Moi, Wilfried@superprof.com et je donne souvent mon portable sur les podcasts. 06 64 79 27 78 si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, un petit coup de boost, je suis là pour vous.
Enfin, quand on dirait presque Better Call Saul.
Parce que c'est gratuit pour. C'est pas un numéro payant, le.
Le sujet de la mixité, le sujet de la diversité, c'est un sujet pour bien des startups de la tech. Vous, là-dessus, vous avez un regard, vous avez une manière de faire. Je serais curieux de savoir ce que tu as à nous dire là-dessus.
Alors, j'ai envie de vous dire que la diversité, c'est incroyable. C'est-à-dire que Superprof, c'est parce qu'on a énormément de diversité, parce qu'on a énormément d'hommes, de femmes, et en plus de ça, c'est qu'on a beaucoup de nationalités, beaucoup de cultures différentes, beaucoup de religions différentes, beaucoup de passés. Et donc, c'est de ça qu'est née aussi la force de Superprof. Si j'avais 200 collaborateurs français dans la boîte, ça serait pas du tout la même boîte. Là, aujourd'hui, c'est l'auberge espagnole. C'est des gens aventuriers qui ont réussi à quitter leur pays pour s'installer en France, qui adorent la France, qui se rendent compte de la chance. Moi, j'ai des Colombiens, des Mexicains, des Argentins qui ont des pays quand même compliqués, parfois des pays en guerre. On opère au Nigeria. C'est des pays compliqués. En Ukraine, en Russie. Moi, j'ai, voilà. Donc, c'est des gens qui mesurent la chance qu'on a d'être en France, comme je disais, et qui nous apportent beaucoup parce que du coup c'est une mixité à la fois de religion, de nationalité et de sexe. Et
comment t'expliques du coup, pardon, la nationalité, c'est une chose et ça c'est vraiment un parti pris que vous avez eu dès le départ, ouais. Puisqu'il y avait aussi un intérêt business que t'as aussi très bien expliqué tout à l'heure. Vous ouvrez un pays, vous trouvez
un natif, bien sûr.
Mais tout le monde n'y arrive pas. Tout le monde n'arrive pas à avoir des équipes mixtes. Tu penses que c'est simplement parce qu'on ne prend pas le sujet à cœur ou qu'il y a d'autres sujets qui peuvent être réglés
ou qui sont... Alors, je pense que les compliqués. Gens... Enfin, j'en sais rien, je parle vraiment comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui font l'économie. Par exemple, ils vont prendre un Espagnol ou quelqu'un qui va parler espagnol et qui va faire le site en Espagne, en Mexicain, en Colombien, en Chilien... Nous, on va pas du tout à l'économie. C'est-à-dire qu'on est... c'est, encore une fois, pourquoi ? Parce que c'est notre argent, on fait bien ce qu'on veut avec, on n'a pas de compte à rendre. Et moi, je suis très ambitieux, et donc quand on lance un pays, on le fait bien. Même si c'est un pays dans lequel on va gagner zéro pendant plusieurs années, et c'est arrivé, hein, les États-Unis, moi j'ai mis 6 ans avant de gagner $1. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est le deuxième plus gros pays en chiffre d'affaires, et ça sera le plus gros à la fin de l'année. Et donc, on n'a pas fait d'économie, donc on a recruté des natifs. Et voilà peut-être pourquoi les gens n'arrivent pas à se constituer cette équipe internationale, mais qui est le poumon, la force, le cœur de Superprof. Parce que, donc on parlait de diversité homme-femme, c'est très bien, mais c'est encore plus puissant quand on a des femmes du Brésil, des hommes de Turquie qui cohabitent avec des Chiliens, des Chiliennes, des Péruviens et compagnie. Ça te donne un melting pot, une force. Et puis en plus, c'est extrêmement drôle parce que les clichés qu'on a sur tous les pays, en fait... Ne le dites à personne, mais se vérifie un peu. C'est-à-dire que c'est...
Je pensais que t'allais me démontrer le contraire.
Mais c'est ça qui est trop drôle. Les Italiens, c'est les plus bavards. Ils parlent avec les mains, ils mettent une ambiance de folie. Ils nous ont fait une soirée italienne dernièrement. Évidemment, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Les pâtes, ils nous font à manger, ils veulent... Les Brésiliens, c'est ceux qui vont danser le plus, la musique espagnole. Les Allemands, ils sont au bar en train de se servir des bières. Je veux dire, c'est trop marrant.
Et nous, les Français...
On râle, on n'est pas content, ça va pas, il fait pas beau, voilà. Non, mais c'est rigolo, mais...
À force de garder ton tempérament, tu vas te faire exclure de ce pays, hein.
Non, mais... Pour la blague, mais c'est vrai que les clichés, des fois, en fait, voilà, on voit, c'est très drôle, et ça cohabite super bien les différentes nationalités et c'est une force très très forte, la diversité. Bref, vive la diversité.
Tout à l'heure, tu évoquais le fait qu'avec ta femme, vous aviez choisi un nom féminin et vous l'avez transformé en un prénom mixte, Olympe. Nous, on est parti d'un palmarès avec Olivier Solène, qui est un palmarès très masculin. Et on a décidé de le féminiser à notre manière en proposant à tous les entrepreneurs qu'on reçoit de choisir une femme qu'ils admirent. C'est le fameux moment Sista. T'as choisi qui ?
Alors écoutez, moi je vais vous faire un cadeau les amis, je vous propose de discuter et d'échanger une heure avec une femme absolument incroyable, c'est mon coup de foudre professionnel, il s'agit de Ségolène Moutarde qui a monté avec brio Team Starter qui est en plus un projet à impact sociétal puisqu'elle ça met en relation les collaborateurs, ça recrée du lien dans les grandes entreprises entre les collaborateurs sur des projets qu'ils vont pouvoir créer.
T'as un coup de cœur entrepreneurial sur son projet ou aussi pour la femme entrepreneur qu'elle est, sa manière d'être, son état d'esprit.
Sur la femme, définitivement. Ton projet est formidable et j'ai un coup de cœur, oui, sur le projet, mais surtout, c'est une personne. Si vous me trouvez optimiste, si vous me trouvez débordant d'énergie, vous allez trouver mon maître. Elle est absolument exceptionnelle, donc je vous invite
On va le faire.
Et je t'embrasse, Ségolène, et à très bientôt.
Et alors, plus que d'embrasser, de lui dire à très vite, je te propose de lui poser une question qu'on encapsulera et qu'on lui proposera. Tu peux t'adresser directement à elle.
Ségolène, j'aimerais savoir d'où vient toute cette énergie, quoi. J'ai l'impression de ne pas en manquer, mais quand je te vois, je vois une leçon à la fois d'énergie, de motivation. Tu déplaces des foules. C'est quoi ton secret?
Eh ben, on le découvrira dans 40 nuances de Nex, 40 nuances de Sista. Wilfried, on va se quitter.
Thomas,
mais il y a un truc que tu voulais nous dire, que tu n'as pas osé nous dire de pendant cette heure et demie passée ensemble. Tu vois, je prends volontairement le temps de laisser à ton esprit le temps d'infuser, de trouver l'idée, l'information, l'exclusivité que tu peux partager à ce micro.
Eh bien, écoutez, là, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est que Superprof, on l'a dit, c'était un projet, le projet de ma vie, mais j'aimerais faire un grand merci à mon équipe, parce que mon équipe, je lui dois tout, je suis qu'un maillon de cette grande chaîne, et donc Superprof, c'est surtout une équipe formidable, donc j'aimerais lui tirer mon chapeau, la remercier, et voilà, j'espère l'avoir assez dit, c'est peut-être le truc que je n'ai pas assez dit, merci ma team, parce que sans vous, je ne suis pas grand-chose.
Eh ben, s'ils ont bien voulu t'entendre encore une fois jusqu'au bout, ils le seront. Merci beaucoup Wilfried.
Merci Thomas.
Et à
merci
très bientôt.
Olivier.
40 nuances de Next.
Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.